L'extrême centre, bah, ça me paraît assez oxymorique, si je puis dire. Puisque le centre, par définition, serait modéré, j'ai envie de dire. Mais oui, je dirais que c'est un oxymore, c'est ce qui me vient en tête.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses concepts. Et aujourd'hui, un concept dérangeant, car s'il était validé, il prouverait qu'en soutenant successivement, depuis qu'il a le droit de vote, Jean Le Canuet, Raymond Barre, Hervé Morin, puis Emmanuel Macron, notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière a eu tort. Et pire, que ces idoles centristes auront servi de marchepied à l'extrême droite. Car oui, aujourd'hui, on zoome sur la notion d'extrême centre. Paradoxale sur le papier, elle permet de comprendre beaucoup de choses, notamment la progression des populismes à droite comme à gauche, sans déflorer notre sujet du jour et surtout le doux sassort qui s'annonce et qui a comme d'habitude demandé un travail énorme à Cyril. On peut d'ores et déjà dire qu'en prétendant gouverner par la raison seule, en mettant de côté les passions, l'extrême centre étouffe le débat démocratique, voire endort le débat démocratique, au risque qu'un jour le réveil soit violent. Un peu comme quand Manon se réveille alors qu'elle dort tranquillement, elle rêve de chicha géante, pendant le doux sassort de Cyril, obligeant Cyril à lui signaler à l'antenne que quand même elle se fout un peu de sa gueule.
Vous baillez, Manon.
Alors, un extrême centre qui mène à l'extrême droite, en tout cas à l'extrême droitisation du débat public, toute ressemblance avec une ou des démocraties existantes serait évidemment fortuite. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Yoann Chapoutot.
Bonjour Mathieu Noël.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Yoann, vous êtes historien spécialiste de la République de Weimar et du nazisme, c'est dire si vos journées doivent être fun. Vous avez écrit Les Irresponsables, qui est Qui a porté Hitler au pouvoir, qui est sorti début février chez Gallimard et qui nous a inspiré le thème de cette émission sur l'extrême centre. Vous allez tout nous expliquer évidemment de ce concept. Juste le temps de vous présenter deux journalistes parfaitement responsables, eux, Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, bonjour tout le monde.
À vos côtés, Yoann, elle est difficile à cerner politiquement. D'un côté, elle fait des podcasts avec Sandrine Rousseau. De l'autre, elle serait assez favorable à l'envoi à Cayenne de tous les utilisateurs de vélos électriques dans Paris. Infoutu de respecter un feu rouge.
Pas du tout, je vais m'en acheter un.
À commencer.
Bah
c'est
oui.
Un scoop France Inter.
Oh.
Vous basculez de l'autre côté.
Je suis en train de regarder. Il commence à refaire beau, donc je m'interroge.
Après bon, tout le mal que vous avez dit, ces pauvres cyclistes, vous êtes vraiment insaisissables politiquement.
Oui. Je crains le pire pour les autres cyclistes.
Oui, pour tous les usagers de la route en général.
Oh là oui.
Manon, chaque après-midi, vous nous présentez l'autre personne à suivre sur notre sujet.
La présidente fictive d'une série française que beaucoup ont comparée à Emmanuel Macron. Spoiler, elle est jouée par Anna Mouglalis.
Et oui, que beaucoup appellent par erreur Anna Mouglalis. On ne sait pas pourquoi qui sont
c'est
ces
bizarre,
gens.
Hein.
Mais en tout cas, ce n'est pas nous qui commettrions l'erreur. Face à vous,
sachez
Yoann.
Qu'ils font souffler les cyclistes quand même. Maintenant, je reviens sur le...
Oh
je vous le dis, Manon.
Oh, le
ça,
tac.
C'est important.
En plus,
vous savez que je prends déjà pas mal de vélos. Hein. C'est juste que Lime, quand on prend après une certaine heure, il demande si on est dans un bon état.
Et vous répondez oui.
Bah, je dis oui.
Donc
même
vous mentez.
C'est faux.
Je ne suis pas irresponsable. Hein, ça va
pas. Non, mais vous êtes menteuse.
Oh.
Face à vous, Yoann. Il fait partie des tout derniers trentenaires à regretter Giscard. Et cette France où on était libre d'entreprendre, de cloper dans le TGV, de prendre l'avion pour faire Paris-Caen sans avoir à planter des arbres derrière parce qu'on culpabilise. Quentin, chaque après-midi, vous interrogez les passants sur notre mot du jour. Alors, l'extrême centre, ça leur parle ?
Dans la rue, ça va de l'oxymore à un extrême centrisme assumé. Mes rencontres du jour m'ont parlé de ce qui pourrait être le troisième extrême. Je vous préviens, on va un peu parler de notre président de la République, héritier de Giscard. C'est peut-être un peu extrême de le dire comme ça.
Oui, vers 16h30, de quel centre Manon est-elle le plus proche ?
Le centre de désintoxication.
Oh oui ! Oh oui ! Bonne réponse ! Oh, ça sent bon, l'encyclopédie Larousse en 10 volumes pour vous dans le Zoom Zoom Test, Quentin.
Vous me faites passer pour ce que je suis pas, j'avoue.
Oh.
Je suis vexée.
Mais quelle actrice ! Vous avez fait le cours Florent,
évidemment.
Non ? Évidemment. Juste avant 17h, Rosa Burstein nous rejoindra. Mais d'abord, Yoann Chapoutot, l'extrême centre est-il vraiment un extrémisme comme les autres ? Parce que l'expression est jolie, mais est-ce qu'on peut vraiment le mettre sur le même plan que les autres extrémismes ?
Bah, effectivement. C'est paradoxal, ça a été dit par une de vos auditrices que vous interrogiez, c'est un oxymore. Mmh. Et ça a été défini comme tel par l'historien qui a créé ce concept, qui n'est pas moi. Rendons à César ce qui est à
c'est
César.
C'est pas vous ?
Mais non.
Qu'est-ce que vous faites
là ? Mais je l'ai dit explicitement que c'était pas moi qu'il fallait inviter aujourd'hui. c'est Pierre Cerna, historien de la Révolution française, professeur à Paris 1, qui, pour décrire la période du Directoire, c'est-à-dire cette période de Thermidor, à partir de juillet 1794, a forgé cette expression d'extrême intéressante. Pourquoi ? Parce que les thermidoriens, donc ceux qui mettent fin à la Révolution, en clair, se définissent comme centristes, modérés, tempérés, à égal, à équidistance, comme un barycentre à équidistance des jacobins à l'extrême gauche et des royalistes à l'extrême droite. Et Pierre Cerna montre que ces gens-là sont tout sauf tempérés et modérés. Ils sont extrêmement violents, ils n'hésitent pas à faire tirer sur la foule au canon, s'il vous plaît, hein, dans Paris. Et par ailleurs, ils entraînent une extrême concentration du pouvoir et une extrême centralisation du pouvoir. C'est le moment des masses de granit qu'on va jeter sur la France pour la centraliser. On va créer les recteurs, on va créer les préfectures, etc. etc. Et leur petit factotum, qui est le général Bonaparte, hein, qui est vraiment l'exécuteur des basses œuvres à ce moment-là, va ensuite dépasser ses créateurs et puis poursuivre cette œuvre-là.
Généalogie de l'extrême centrisme avec vous. Lui, son t-shirt Les Jeunes avec Raymond Barre est un peu bouloché. Le B de Barre est un peu passé. Mais ses convictions extrême centristes sont intactes. Il fallait même François Bayrou sur Instagram. C'est dire bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors Cyril, racontez-nous l'extrême centre, d'où ça sort ?
Phénomène intéressant aujourd'hui, car c'est à une notion
relativement...
Parce
que d'habitude les phénomènes ne sont pas intéressants qu'on étudie dans Zoom Zoom.
Tu sais, il y a 220 émissions à faire chaque saison. Donc, phénomène intéressant, car si c'est à une notion relativement nouvelle qu'on s'intéresse aujourd'hui, eh bien cette notion nouvelle décrit en fait quelque chose d'assez ancien. Commençons par le commencement. Qui a théorisé cet extrême centre ? On a commencé à l'évoquer. Ils sont deux, et je commence par un philosophe, pas celui que vous avez cité. André Gérard Slama. En 1980, il sort chez Grasset « Les chasseurs d'absolu, genèse de la gauche et de la droite », livre où il forge la notion d'extrême centre qui nous intéresse cet après-midi. Et voici ce que Slama en disait récemment dans les colonnes du Figaro. Au prétexte de maîtriser les passions et de faire prévaloir la raison, cette idéologie tend à monopoliser le pouvoir au détriment du jeu normal de la démocratie. Plus près de nous, et là vous avez commencé à le dire, l'historien Pierre Cerna en a remis une couche en approfondissant ce travail. En 2005, Cerna publie La République des Girouettes 1789-1815 et au-delà, une anomalie politique, la France de l'extrême-centre. Et oui, à ses yeux... Déjà, dès la Révolution, il existait un extrême centre.
Les changements de page 14
ans plus tard, le même Pierre Cerna va plus loin que le qualificatif d'anomalie avec un autre livre, L'extrême centre ou le poison français, 1789-2019. Poison, voilà, le mot est lâché.
Mais il n'est pas que français.
Non, en effet, mon bon Noël. En 2015, en Angleterre, l'historien Perry Anderson fait sienne cette notion dans un article publié en 2015 dans la London Review of Books, son titre The Heirs of Gramsci, les héritiers de Gramsci, le fondateur du Parti communiste italien, emprisonné par Mussolini, est mort en prison. J'en reviens à Perry Anderson. Pour lui, depuis les années 80, les démocraties libérales sont dominées par un extrême centre, c'est-à-dire un pouvoir qui se veut modéré, au moins en apparence, mais qui en fait applique des politiques néolibérales sans laisser prise à de réelles alternatives idéologiques. Alors, est-ce que l'extrême centre, c'est aussi dangereux que les autres extrêmes ? C'est quoi être un centriste radical ? Est-ce que ça se guérit ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Yoann Chabouteau, est-ce que c'est vraiment aussi dangereux l'extrême-centre que l'extrême-droite, par exemple ? C'est plus insidieux, en tout cas.
Alors, généralement, ça prépare la prise de pouvoir de l'extrême-droite. On se rend compte que ce sont les libéraux italiens qui ont mis les fascistes au pouvoir en 1922, parce que, pour l'extrême-centre, le danger principal, c'est toujours la gauche. Qu'elle soit socialiste, communiste, syndicaliste, donc tout est bon pour la contrer. Donc ça a été le cas en Italie en 1922. En Allemagne, et c'est l'objet de mon livre, en 1932, ce sont bel et bien des libéraux autoritaires qui sont tout à fait qualifiables comme extrême-centristes, hein, qui ont mis Hitler au pouvoir. Et aujourd'hui, on sent bien que l'espèce de pas de deux qui a été enclenché en 2017, l'espèce de faux duel qui était en réalité un vrai duo avec l'extrême-droite, a abouti à reprendre les thématiques, les obsessions, le discours, le raisonnement, les mots même de l'extrême-droite, jusqu'à voter la loi immigration en décembre 2023.
On peut faire cette analogie avec la situation actuelle en France.
Alors, en réalité, le travail de Pierre Cerna que vous évoquiez, est un travail qui explicitement va transhistoriser le concept d'extrême-centre qu'il a forgé à propos du directoire pour montrer que l'extrême-centre est structurant, en fait, sur deux siècles d'histoire politique française, jusque et y compris à cette espèce de paroxysme à partir de 2017 où on prétend incarner le camp de la raison. Alors, c'est tout le contraire.
Mais puisque... c'est conscient ou pas, d'après vous ? Parlons d'Emmanuel Macron. Vous pensez que c'est quelqu'un qui...
qui connaissait ces théories-là et qui s'est dit je vais faire ça et je vais être un marchepied pour l'extrême-droite.
Je ne pense pas. Je pense qu'il y a par contre une vraie conviction d'incarner une forme de fin de l'histoire,
d'incarner la droite et la gauche.
Une raison transcendante, d'être le plus intelligent, etc. Et de commettre donc dès lors des erreurs massives qui, pour le coup, pavent le chemin de l'extrême droite. Par ailleurs, je reprends cette expression de François Mitterrand, qui disait « le centre n'est ni de gauche, ni de gauche ». Il faut quand même se souvenir de ça. Et l'ennemi, ça reste toujours quiconque prône plus de justice sociale et fiscale. Et donc, pour tout cela, c'est l'alliance avec la droite et l'extrême droite qui s'impose.
Un point sémantique, pourquoi on appelle ça le centre, l'extrême centre? Parce que c'est quand même, ça se situe plutôt, si on prend un échiquier politique, plutôt un petit peu à droite quand même.
C'est très français aussi, comme appellation.
Pas vraiment, justement, le concept de Pierre Cerna vaut effectivement pour la politique française. C'est un spécialiste d'histoire de la France. Moi, je l'ai mis à l'épreuve, si vous voulez, ce concept-là de l'Allemagne de 1932. J'ai montré que c'était très, très opératoire. Mais pourquoi on appelle ça l'extrême centre? Tout simplement parce qu'il faut prendre au sérieux les mots des acteurs, et les mots par lesquels les acteurs sociaux se désignent eux-mêmes. Des gens comme Giscard, Barre, Bayrou, Macron s'autodésignent comme centristes. Dont acte, prenons acte de cela, et voyons ce que cela veut dire, et voyons que, en fait, le centre tel qu'il le fantasme, c'est en réalité la droite, et que la pratique politique censément tempérée, rationnelle, raisonnable, est en fait une pratique politique violente, en témoigne le nombre de mutilés de l'œil ou des membres à coups de LBD ces dernières années.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et si l'extrême-centre faisait la courte échelle à l'extrême-droite? Et c'est quoi d'ailleurs l'extrême-centre? Décryptage cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec l'historien spécialiste du nazisme Johan Chapoutot. Johan, dans votre dernier livre, Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir? Vous répondez à cette question, vous dites c'est l'extrême-centre qui a mis l'extrême-droite au pouvoir en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler le processus en fait, ce qui s'est passé?
Bon, j'ai emprunté ce concept d'extrême-centre à Pierre Cerna en l'appliquant à un autre champ, une autre époque et une autre ère géographique qui est l'Allemagne de 1932. À ce moment-là, on a au pouvoir des libéraux autoritaires, c'est-à-dire des gens qui se proclament libéraux d'un point de vue économique. Ils le disent à longueur de discours, nous aimons l'entreprise, nous aimons le profit, nous aimons l'économie privée, nous aimons les entrepreneurs, etc. Ils mènent d'ailleurs une politique de l'offre à tout craint, ce qui est évidemment en écho avec ce qui se passe dans notre pays depuis quelques années. Donc subventions massives aux entreprises, dérégulation en termes de droit social, crédit d'impôt à gogo, etc. Et par ailleurs, ces libéraux sont également très autoritaires du point de vue politique parce qu'ils veulent bien tolérer la démocratie si et seulement si c'est la droite qui gagne. Si c'est parfois la gauche, ça ne joue plus. Il dépose d'ailleurs le gouvernement social-démocrate de Prusse, illégalement, le 20 juillet 1932, et il refuse toute alternative politique en estimant que leur politique est la seule rationnelle et la seule qui vaille.
Mais aussi dans le jeu politique de l'époque, il y avait cette idée pour les centristes allemands qu'ils allaient pouvoir maîtriser l'extrême droite en jouant un peu avec elle, la contenir. Et en fait, ils ont été complètement débordés.
Alors, depuis 1930, la droite au pouvoir, extrême centriste pour le coup, veut l'alliance avec les nazis, puisqu'ils sont d'accord sur à peu près tout. On propose des postes ministériels de nazis sans cesse, mais ils refusent puisqu'ils veulent la totalité ou... Au minimum, ils veulent la chancellerie, c'est-à-dire qu'ils veulent la direction du gouvernement. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas possible depuis 1930. Il y a cette idée selon laquelle, effectivement, on peut additionner des pourcentages dans une conception arithmétique et statique de la politique. Ce que les extrêmes centristes de l'époque, Franz von Papen, j'en parle abondamment dans le livre, n'ont pas compris, c'est qu'on ne peut pas raisonner avec l'extrême droite en termes de statique, en additionnant des blocs. Il faut raisonner en termes de dynamique. Et quelqu'un qui le dit très bien, c'est Joseph Goebbels lui-même, dans son journal, à l'été 1932, il note à un moment, ces crétins de bourgeois, je cite de mémoire, vont nous donner le pouvoir, on ne le rendra jamais, ce sont nos cadavres qu'il faudra sortir de là. Et ça, il faut vraiment se le graver. Il faut se le graver dans le crâne, puisqu'il écrit ça au moment même où Magda Goebbels est enceinte de leur première fille, et précisément, le 1er mai 1945, l'armée rouge sortira les cadavres des 6 enfants Goebbels du bunker.
Mais vous pensez pas, si on revient à notre France actuelle, qu'il y a encore quand même une digue morale, éthique, entre la droite et l'extrême droite? Vous dites que vous avez eu l'idée d'écrire le livre au moment de la loi immigration, en 2023. Pour vous, ça, c'est là qu'une digue a été franchie qui vous inquiète?
Alors, le fait que l'extrême-centre au pouvoir, hein, depuis 2017, soit d'accord très largement avec l'extrême-droite est maintenant très abondamment documenté. Hein. Les révélations du Monde, il y a quelques mois, montraient qu'un Emmanuel Macron faisait des blagues homophobes, racistes, et que, par ailleurs, il disait à Valeurs Actuelles que le terrain de l'identité nationale...
Ça a été démenti par l'Élysée.
Oui, et de l'immigration était son terrain favori. Et tout ça fait partie vraiment d'une culture politique qu'on constate depuis quelques années. Les premières sorties politiques d'Emmanuel Macron à l'été 2016, c'était pour aller voir Philippe de Villiers ou pour aller disserter sur la figure du roi à la fête de Jeanne d'Arc à Orléans. Donc, le fait
sur
que
la
soit...
colonisation, il y a eu un autre discours quand même.
Oui, mais qui n'a pas duré longtemps pour le coup. Il n'a pas duré longtemps puisque là, pour l'instant, il me semble que Jean-Michel Apathy est livré aux chiens en ce moment et on n'a pas de réaction officielle disant oui, c'est vrai, nous avons commis des crimes en masse. Tous les historiens le disent.
Hein. Là, c'est plutôt les médias et l'extrême droite elle-même. C'est pas tellement Emmanuel Macron là sur ce dossier, pas pour le défendre, mais sur le dossier Apathy par exemple.
C'est quelque chose
de l'air du temps pour vous.
Bah, je pense, oui, parce que Emmanuel Macron avait commencé par dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il aurait une bonne occasion de réitérer son propos.
Vous voulez dire qu'il aurait dû s'exprimer sur le sujet.
Oui, par exemple. Mais donc, qu'il soit d'accord avec l'extrême droite très souvent, ça ne m'étonnait pas. Par contre, il y avait quand même quelque chose comme un marqueur, comme on dit vulgairement, qui était effectivement la politique, le rapport à l'immigration. Et en 2017, on se souvient d'un candidat qui était allé de manière un petit peu excessive, hein, peut-être, à Oradour-sur-Glane, puis au Mamaral, la Shoah, pour bien montrer qu'il était contre l'extrême droite de Madame Le Pen. Très bien. Et or, on se rend compte qu'en décembre 2023, non content de voter à peu près toujours au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale sur tout ce qui peut détruire les droits sociaux, les droits des femmes, les droits des travailleurs, la justice sociale et fiscale avec l'extrême droite, les extrêmes centristes votaient par ailleurs une loi immigration qui était une demande et une victoire idéologique, excusez du peu, Madame Le Pen l'a dit, de l'extrême droite. Donc là, ça m'a semblé aller beaucoup plus vite que ce que je ne pensais, pente de l'extrême centre de l'extrême droite.
Du coup, l'extrême centre d'aujourd'hui en France, pour vous, c'est un peu la nouvelle droite ?
Bah, ils sont de droite, on va dire ontologiquement, culturellement, fiscalement, socialement, c'est très clair. Il y avait quelques petits marqueurs, là encore, sociétaux. On est un peu moins homophobe que la droite, on est un peu moins raciste que la droite, mais on a vu que tout ça était quand même très relatif, et on a vu des séries de révélations qui nous ont affranchis.
Constitutionnalisation de l'IVG, quand même. Il y a quelques marqueurs, quand même, qui demeurent.
C'est vrai, mais ils sont rares. Ils sont quand même très rares, et par ailleurs, en termes de politique environnementale, de politique sociale, de rapport même à la science ou à la raison. On se souvient d'un Emmanuel Macron qui avait dit que c'était l'université française, je cite, qui avait fracturé en deux la société française pour cause d'islamo-gauchisme. Enfin, c'était complètement aberrant. Et de ce point de vue-là, c'est pas très différent de ce que disent M. Vance et M. Trump en ce moment. Hein.
On va y venir, on va parler un peu des États-Unis tout à l'heure. Il restera certainement dans l'histoire de l'audiovisuel comme le dernier génie du micro-trottoir. Oui, il est probable que dans un futur assez proche, avec les progrès de l'IA, on fasse dire directement à des personnes virtuelles ce qu'on a envie qu'ils nous disent, plutôt que de scoltiner l'imprévisibilité souvent décevante des vrais passants. Mais Quentin, vous êtes un génie, puisque pour notre sujet du jour, ce n'est ni sur le trottoir de gauche, ni sur le trottoir de droite que vous êtes allé à la rencontre des gens, mais... Comment vous avez fait ?
Je suis allé sur une place, mon cher Mathieu. Centrale, circulaire. Je commence avec Maxime et Basile, on discute du paysage politique, des dernières législatives. Ils découvrent le terme qui nous intéresse aujourd'hui.
Extrême-centre, ok. Ouais, bah, je pense qu'on parle à notre président, non ?
Moi, je pense que, je sais pas, là, je pense qu'il est dans un mode où il en a plus rien à foutre. Il lui reste 2 ans, il doit pas se faire réélire. Je pense que... L'arc républicain, c'est bien pareil, tout ça, c'est une tactique pour éliminer une menace qu'il y avait aux législatives, c'était le soulèvement du non-front populaire, et il a fait sortir la France insoumise de l'arc républicain, et il les a mis au même titre que l'extrême droite. Donc dire que du coup, il serait le seul dans l'arc républicain, c'est jouer son jeu, donc je suis pas d'accord.
Voilà Antoine maintenant, je le rencontre devant la terrasse d'un restaurant où il sort avec son épouse et un ami, veste d'aviateur, casquette grise, il imite des animaux.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous venez de faire ?
Ah 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 !
Pas mal.
C'est le coq parisien.
Il semble surpris en découvrant le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Extrême centre, c'est un parti que j'ai fondé moi quand j'avais 15 ans, j'en ai il y a 50 ans.
Bah, racontez-moi.
J'ai créé un parti qui s'appelait l'extrême centre avec des copains. On était dans un lycée parisien et alors ça commençait à se drôlement se politiser, extrême droite, extrême gauche, et nous c'était l'extrême centre.
Plaisantez, c'est pour me faire plaisir.
Pas du tout. Ah non, mais je suis toujours l'adepte de l'extrême-centre. Plus sérieusement, l'idée, c'était de remettre le bon sens au centre du truc. Donc, il y a des très bonnes idées à droite, des très bonnes idées à gauche. Et en fait, quand on regarde les histoires politiques, alors, chacun sa chapelle, chacun son truc, pour avancer de quoi ? De rien.
Après, voilà, Antoine, la politique, la République, ça le gonfle un peu.
Bon, déjà, j'ai un problème avec la démocratie, parfois, c'est vous dire.
Ah oui ?
Bah oui.
Ce serait quoi le meilleur régime ?
Ah, je ne sais pas s'il y a un meilleur régime, mais enfin la démocratie, on va dire, passer Orléans, passer la Loire, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur régime. Je veux dire, la démocratie en Grèce, elle était réservée aux gens qui pensaient. Bon, bah maintenant, c'est tout le monde. Ah, je sais, c'est un peu extrémiste, mais c'est justement, c'est ça l'extrême-centre.
J'ai laissé un petit blanc. Parlons avec cette jeune femme maintenant, lunettes de soleil, papillon, t-shirt blanc et valise derrière elle.
Extrême-centre. L'extrême-centre, bah, ça me paraît assez oxymorique, si je puis dire. Puisque le centre, par définition, serait modéré, j'ai envie de dire. Oui, je dirais que c'est un oxymore, c'est ce qui me vient en tête.
Mais le centre est-il toujours modéré ? Jeanne a-t-elle des exemples extrêmes, autoritaires du centre qu'elle dit incarné par Emmanuel Macron ?
Oui, notamment par rapport à la réforme des retraites, je dirais. Ça me paraît assez extrême. Disons que le peuple français était quand même globalement contre et que pour autant, il a forcé la loi, donc j'ai envie de dire que ça me semble assez extrême.
Donc on peut être extrême et centriste.
Bah alors ça voudrait dire qu'il n'est pas vraiment centriste. C'est plutôt sur ce mot-là que je reviendrai.
J'arrête maintenant Sacha et Lola, 24 et 25 ans.
Extrême centre, oula. Ça existe ça ? Non, ça n'existe pas.
Sur la droite, ça. Pour moi, le centre, il n'existe pas vraiment. Parce que ça, le centre, ça revient toujours à faire des compromis, du coup, entre deux camps et du coup avoir une sorte de non-idée qui n'est qu'un immense compromis qui va un peu nulle part.
Est-ce qu'il considère Emmanuel Macron comme une figure de l'extrême-centre ?
Ouais, bah non, Macron pas extrême-centre du tout. Macron, sa politique et ses positionnements, il relève plus d'une forme de droitisation et même bah, tout ce qui s'est passé avec le fait qu'il ait besoin de la validation du FN, du RN qu'il leur a demandé à certains moments avant les législatives ou des trucs comme ça. On a bien vu avec qui il avait le plus de complaisance en fait. Du coup, parler de centre, pour moi, ça a pas trop de... pour son cas à lui, ça n'a aucun sens.
Sur cette place parisienne, je croise le bus boîte de nuit, maintenant, qui fait le tour de la place en klaxonnant avec plein de gens dedans, qui dansent à l'intérieur alors qu'il fait jour. C'est ici que je rencontre Maxime, la trentaine, il regarde passer le bus lui aussi. Il est consultant en stratégie d'entreprise. À son avis, pourquoi parle-t-on d'extrême-centre ?
Parce que les gens veulent être extrêmes, quoi. Qu'ils en ont marre de la banalité, parce qu'on a fait... qu'on a alterné entre une gauche, une droite, une gauche, une droite. Que maintenant, la solution, pas mal de gens trouvent un peu plus leur solution, soit l'extrême droite, soit l'extrême gauche. Et donc peut-être qu'une manière un peu marketing, entre guillemets, de proposer sa campagne à ce public-là, c'est de proposer un extrême centre en disant bah, « on est au milieu, mais on est quand même extrême, nous aussi, vous inquiétez pas ».
Dans la rue, entre ceux qui pensent à un oxymore, d'autres qui y voient un non-sens, ou encore ceux qui sont des extrémistes centristes assumés, c'est peut-être sur ce dernier avis que je vais m'arrêter. Et si l'extrême devenait une nouvelle tendance politique, comme un argument, après tout, il faut peut-être être extrême pour se faire entendre à notre époque.
Merci Quentin. Yoann Chapoutot, vous êtes un spécialiste de l'extrême-centre. Je rappelle votre livre « Les irresponsables, qui a porté Hitler ?» au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un quiproquo, même dans la rue, sur la définition même de l'extrême-centre, parce que certains mettent Emmanuel Macron dedans directement, puis d'autres disent bah « Non, Emmanuel Macron, il est trop à droite, c'est pas du centrisme. » Parce que c'est pas vraiment du centrisme, en fait, l'extrême-centre.
Effectivement, ça repose sur l'ambiguïté même de cette expression, et de la proclamation de gens qui sont ouvertement de droite, d'un point de vue social et fiscal au moins, à se prétendre... au barycentre, à équidistance des extrêmes, et à prétendre incarner la raison. La raison des meilleurs, hein, c'est censé être le gouvernement des meilleurs, des techniciens, etc. Or, alors, en termes de ressources humaines, puisque c'est un terme que ces gens-là aiment beaucoup, on ne peut pas dire que des Prisca Thévenot, des Gabriel Attal, des François de Rugy ou des Emmanuel Macron nous aient émerveillés par leur brio intellectuel et moral, ou leur expérience, leur culture, leur intelligence, etc. Si on compare leur chef à OSS 117 tous les quatre matins, c'est bien qu'il y a une raison.
Coup,
et quand on regarde par ailleurs, oui, mais j'insiste là-dessus parce qu'une des prétentions de l'extrême-centre à être dominant, c'est précisément incarner la raison, incarner l'excellence. Or, ces gens-là sont tous sauf excellents quand même. Hein. Leur bilan en témoigne, il n'est qu'à constater...
Ça reste un peu subjectif quand même.
Oh non, là c'est très objectif. 1000 milliards de dettes en plus en 7 ans, c'est quand même un sacré...
On peut dire qu'il y a le Covid, on peut blâmer le contexte international.
Il y a aussi 200 milliards d'euros de subventions non conditionnées aux entreprises entreprises privées par an. Hein. Cette fameuse politique de l'offre qui ne fonctionne pas. Il y a également l'abolition de l'ISF qui a coûté cher au Trésor public et sur laquelle on n'est pas revenu alors que ça ne fonctionne pas. Au mépris d'ailleurs de la promesse de faire des politiques test et de revenir si ça ne marche pas, hein, de rappeler ces politiques. On n'a pas fait ça tout simplement parce que c'est une vieille histoire. Hein. On prétend incarner la raison universelle, la vérité, alors qu'en réalité, plus prosaïquement et plus benoîtement, on défend des intérêts très égoïstes de certaines classes, d'une certaine clientèle politique, et on s'y tient mordicus jusqu'au bout, et de manière forcenée. Hein. On le voit au niveau mondial avec des Trump qui vont désormais violer le droit international pour saisir directement des terres qu'ils veulent, dont ils ont besoin.
Justement,
de la même manière,
il y a un côté extrême qui s'installe. Maxime disait qu'il y a une tendance presque du marketing à se dire extrême. Vous pensez que la politique va devenir de plus en plus extrême ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le terme d'extrême-centre a été revendiqué par François Bayrou déjà il y a une vingtaine d'années, je crois, et également revendiqué par Emmanuel Macron, alors sans qu'il sache ni l'un ni l'autre ce que ça voulait dire et comment ça avait été théorisé par un Pierre Cernat ou par un Alain Donneau ou un Tariq Ali qui ont travaillé sur ces notions-là. Mais effectivement... pour promouvoir cette idée de centrisme qui véhiculait une image un peu bourgeoise, ventripotente et molle, il fallait se parer d'une forme de superlatif qui était celui d'extrême.
Ouais. Oui. Mais il pourrait y avoir un parti extrême-centre aujourd'hui en France ?
Oui, ça s'appellerait la droite, hein, tout simplement. Bon, c'est Ensemble pour la République, hein, c'est le groupe de Gabriel Attal et qui n'a que des solutions de droite à proposer sur tous les sujets. Hein.
Gabriel Attal, qui avait quand même au législatif appelé à se désister pour les candidats NFP.
C'est vrai. Alors, ce qui est très intéressant, c'est vrai.
J'essaie de vous contredire un peu sur
mais vous avez
ça,
raison.
Parce qu'il y a des exemples.
Vous avez raison. Ensuite, il faut voir comment les électorats ont réagi. On se rend compte que les reports de voix, en termes de discipline républicaine, ont été de trois quarts, je crois, pour les électeurs de gauche. Pour les électeurs macronistes, là, c'était en dessous de deux tiers, oui. Voire de 50%.
Les électeurs n'ont pas suivi.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël. Sur France Inter.
Ce quiz va encore être l'occasion d'un coup de génie, selon les organisateurs, ou d'une escroquerie, selon la police. Puisque le sujet concerne le centre, et même l'extrême-centre en politique, je vais vous proposer un quiz sur le centre dans à peu près tous les domaines, sauf la politique. Ce que certains esprits mal tournés appellent un trivial poursuite.
Il s'est trompé dans le quiz ?
Non, sachez que je ne me trompe jamais dans le quiz, et que d'ailleurs, plus globalement, j'ai toujours raison. Je préfère ça. Jouons au Zoom Zoom Test. Et dans ce Zoom Zoom Poursuite, comme on pourrait l'appeler, on commence, car je sais que c'est un de vos grands points forts, par la géographie. Camembert bleu. Et puisque vous êtes maintenant des spécialistes de la province, pardon, des territoires, après deux émissions consacrées au sujet depuis le début de l'année, à vous de me dire dans quel département se trouve le centre géographique de la France. Dans l'Eure-et-Loire, dans le Cher ou dans le Tessin? mon champion. Ah là, j'ai envie d'octroyer un. Alors, vous nous dites le nom. Alors, donc là, nous sommes sur deux spécialistes des régions, effectivement. Alors, l'Eure-et-Loire, pas du tout. C'était
Quentin,
le Cher, la bonne réponse. Quentin, le Tessin, c'est où, Quentin ?
Je l'ai pas là.
C'est une région de la Suisse.
Notre spécialiste PQR.
Oui,
bah, ça ne va pas jusqu'à la Suisse. Mais le Tessin, vous le situez au milieu de la
France. C'est que dans la deuxième heure, ça.
Ah oui, évidemment. C'est un rôle de composition.
C'est important.
Réponse B, le Cher, et histoire d'être tout à fait précise, qui est l'essence du Zoom Zoom Test, il s'agirait du village de Bruère-Alichan. D'autres disent que c'est Saint-Palais ou Nassigny, mais c'est des jaloux. Attention, maintenant, on dézoome. Toujours pour un camembert bleu, Manon Quentin, où se situe non pas le centre de la France, mais le centre du monde. Nairobi, Perpignan ou un îlot paumé au milieu de l'océan Indien.
C'est
Ah, je vais mettre Perpignan, moi.
Vous avez envie de faire un 100% un strike aujourd'hui. C'est une bonne réponse. Perpignan.
Pourquoi ?
Oui, l'Espagne est à 20 km, ça passe. Alors, évidemment, sauf à être membre comme Cyril de la Flat Earth Society, la Terre étant ronde, techniquement, ça n'a pas de sens de dire que tel ou tel endroit est le centre de la Terre, sauf pour un artiste de génie. Et c'est ainsi qu'en 1963, le peintre Salvador Dali ressent à la gare de Perpignan une extase cosmogonique, certainement un mauvais trip sous acide, mais bon, deux ans plus tard, il revient dans ce lieu sacré et le décrète officiellement centre du monde. Allez, je sens que la géographie, c'est pas votre truc, passons à une question camembert jaune, histoire, et en l'occurrence, histoire des religion. Manon Quentin, quel est l'autre nom du bouddhisme ? Le centrisme tibétain ? La voie du Ricard ? Ou la voie du milieu ?
C'est
Bah, il y a Ricard, B.
Oui, j'aime bien. La, oui, la voix ouais. de Ricard, évidemment. Ouais, c'est comme ça que ouais. Da, historiquement, l'a bien appelé, sûr, parce qu'il savait qu'il y aurait un jour Mathieu Ricard. Très bien, Quentin. Bonne réponse de Manon Mariani. Effectivement, réponse C. Bouddha a d'abord vécu dans l'opulence et la recherche de plaisirs matériels. Puis il a pratiqué l'ascétisme, le dénuement, jusqu'à frôler la mort. Une trajectoire qui n'est pas sans rappeler la mienne, passée d'un CDI sur Europe 1 à un contrat d'intermittent sur le service public. Si avec tout ça, j'ai pas gagné mon nirvana. Mais attention, nous jouons maintenant pour un camembert vert, catégorie science. Ouais. Silence. Avec une question simple, basique, j'ai presque honte de vous la poser tellement c'est évident. Oh. Quelle étoile est le centre de notre système solaire ?
Le Soleil ?
Vénus, X Mitrinia B17 ou le Soleil ?
C'est.
Ah, ils ne sont pas tombés dans le piège. Oh, quelle bande de génies. Oui, le Soleil.
On est quand même pas si
le Soleil qui est au centre du système solaire.
Oh, j'aurais pu dire la Grande Ours.
La réponse était dans la question. La Grande Ours. À l'instant, ce message de Thomas Pesquet. Ah, avec des champions pareils, peut-être que je vais venir.
Ah.
Mais puisque vous êtes nul en géographie, en science, en histoire, et que contrairement à Courade, lors d'un vrai Trivial Pursuit, vous ne pouvez pas tricher, on va revenir à notre sujet du jour, l'extrême centre en politique. Vous serez peut-être plus performant. D'après vous, à qui doit-on la citation suivante ? Le centre, variété molle de la droite. À François Mitterrand ? À Éric Ciotti ou à Jean-Luc Mélenchon ?
Ah, c'est.
Pour vous, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a prononcé ces paroles. C'était une bonne réponse de Manon Mariani. Effectivement, réponse à la preuve en son.
Le centre, variété molle de la droite.
Oui, j'avais pas le bon badge pour accéder aux archives de l'INA. J'ai demandé à parler à Samia Jedi. On s'est foutu de ma gueule. On m'a dit qu'elle n'existait pas du tout. Alors j'ai été obligé de vous faire l'archive à la mano, si j'ose dire. Mais oui, c'est bien Mitterrand qui a défini le centre comme une variété molle de la droite. Et puisqu'on évoque un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, je vous propose pour finir de partir en l'an 50 avant TikTok. Qui a dit « Le centre est immobile, la roue avance, son centre ne bouge pas » ? Jacques Chaban-Delmas, René Coty ou Georges Pompidou ?
B.
Vous êtes cru dans un film de SS-117.
C'est.
Non, on en a parlé Pompidou. Tout à l'heure, donc.
C'est bien de finir sur une bonne note. C'est nul. C'était Jacques Chaban-Delmas. Chaban, première victime du président Chirac, qui l'avait trahi pour se rallier à Valéry Giscard d'Estaing. Un coup de maître pour Cyril, un coup de pute pour Chaban. Victoire de Manon Mariani. Mais alors, victoire de Raccour.
Franchement, ah ouais,
ça n'a pas été simple. À part que le soleil est au milieu de l'univers, à part
vous
ça, vous n'aviez pas
qu'il a eu, mais...
Vous avez flippé devant l'extrême gauche. Vous avez fait des cauchemars avec l'extrême droite. Vous allez adorer la saison 3, l'extrême centre. L'historien spécialiste de la République de Weimar et du nazisme, Johan Chapoutot, est avec nous pour nous éclairer sur ce concept. Johan, dans votre livre, vous parlez beaucoup de libéralisme autoritaire. En fait, c'est ça l'extrême centre, un libéralisme autoritaire.
Oui, et d'ailleurs, c'est une expression qui a été forgée en 1932, précisément, au moment dont traite ce livre, par un juriste allemand qui s'appelait Hermann Heller, qui était professeur à l'université de Francfort, et qui, voyant la pratique du pouvoir de von Papen et également les théories juridiques de Carl Schmitt, qui était en soutien de von Papen, a forgé ce syntagme-là de libéralisme autoritaire qui relève également de l'oxymore hein, comme extrême centre. Et j'insiste d'autant plus d'ailleurs sur la comparaison avec aujourd'hui, dans la mesure où, puisqu'on parlait de Carl Schmitt, la constitution de 1958 est directement dérivée de la constitution de la République de Weimar, telle qu'elle a été mutilée à partir de 1930 par une pratique autoritaire présidentialiste du pouvoir sur le fondement de pouvoirs d'exception.
Est-ce que y a un lien entre libéralisme autoritaire et ce qu'on appelle la démocratie illibérale ?
Oui, le libéralisme autoritaire peut conduire à la démocratie libérale comme ça peut conduire à la dictature pleine et entière, tout simplement, dans la mesure où, encore une fois, il s'agit de défendre certains intérêts économiques et sociaux de manière forcenée, sans aucune compromission, au rebours d'ailleurs de ce que disent toujours les centristes, hein, ils sont tempérés, ils sont pour le compromis, non. Lorsqu'il s'agit de défendre certains intérêts, ils sont sans compromis ni compromission.
Qui l'incarne ça aujourd'hui dans le monde ?
Alors, un petit peu toutes les droites qui sont au pouvoir, y compris en France, hein, d'ailleurs. Et la pointe avancée, le paroxysme de ce phénomène-là, c'est de fait Donald Trump. Lorsqu'on dit c'est horrible ce qui se passe aux États-Unis, il faut voir qu'il y a des ferments de tout cela, déjà chez nous, et depuis 2017. C'est-à-dire remettre en cause l'autorité de la science, remettre en cause l'autorité de l'État de droit, par ailleurs, défendre mordicus des politiques qui ne fonctionnent pas, qui sèment du malheur social et environnemental, mais les maintenir parce que ça sert certains intérêts privés. On envoie la version monstrueuse, pas paroxystique et très violente avec Donald Trump, mais c'est en germe un petit peu partout, y compris chez nous. Stéphane Foucard, qui est journaliste au Monde, le disait très bien dans sa chronique il y a deux jours. Attention, quand on parle de trumpisme, il est déjà chez nous depuis un moment. Hein.
Attention, parce que Le Monde est devenu d'extrême-gauche. Je ne sais pas si vous avez eu la réaction de Pascal Praud à l'édito. Ah. Ah, non, Le Monde est un journal aujourd'hui d'extrême-gauche. Manon.
Vous citez Vincent Bolloré dans votre livre. C'est une figure de cet extrême-centre aujourd'hui, Vincent Bolloré.
Alors, je le cite à titre de comparaison parce qu'il se trouve que je consacre un chapitre aux médias hein, dans ce livre et à la manière dont des médias ont totalement nazifié l'espace public allemand avant même l'arrivée des nazis au pouvoir, hein, depuis la fin des années 20. C'est-à-dire que les Allemands n'étaient pas plus racistes, antisémites, belliqueux et orduriers que d'autres. Hein. C'était une nation raisonnablement sympathique, mais par contre, il y a eu des intérêts privés puissants qui ont décidé d'infléchir l'espace public, un petit peu comme en France aujourd'hui. Lorsqu'on voit les valeurs en population générale, hein, je me réfère au livre de Vincent Tibéri hein, sur le mythe de la droitisation française, on se rend compte que personne ne va vouloir écraser la gueule du voisin, gagner de l'argent au prix de la destruction de la planète, etc. Personne ne va dire ça. Les valeurs sont plutôt de solidarité, de partage, de tolérance, etc. Mais par contre, il y a un miroir inversé de cette société française, tous les jours, H24, hein, sur des médias qui sont payés pour ça, qui ont été créés pour ça, qui violent le droit pour ça, d'ailleurs, hein, régulièrement, et qui servent, là encore, une extrême droitisation de la société française et qui, pour ne pas parler des vrais problèmes, c'est-à-dire par exemple la destruction de l'environnement et l'injustice sociale croissante et criante dans ce pays, vont hurler à la première femme voilée qui est croisée dans la rue.
Pardon Johan, mais vous voyez un continuum entre l'extrême-centre politique dont on a parlé tout à l'heure, je sais pas, Emmanuel Macron, les gens qui nous dirigent depuis 2017, et la bolosphère, parce que là, pour moi, il y a quand même un distinguo encore entre ces deux univers.
Alors, c'est très curieux, parce que là, en ce moment, effectivement, la bolosphère, comme vous dites, attaque vigoureusement Macron à propos de l'Ukraine. Mmh. Et les macronistes ont l'air de s'en émouvoir et de s'en... comment dire, de le découvrir. Et de découvrir que, au fond, c'était dangereux de pactiser avec l'extrême droite. Là encore, les contacts entre la Macronie et la Bolloré, au fond, sont très documentés depuis longtemps. C'est toujours cette même histoire selon laquelle, au fond, des gens qui pensaient pouvoir faire alliance, une alliance arithmétique avec l'extrême droite, maîtriser le monstre, se rendent compte qu'en fait, ils ont enfanté Frankenstein.
Vous écoutez France Inter, et sur ces bonnes paroles, il est 16h45. Des profiteroles au Genepi, à Méribel, au Space Cake à Amsterdam en moins de 2 semaines. On n'a décidément pas tous la même vie dans cette équipe.
On voyage. Hein.
Manon, l'heure de découvrir la personne à suivre.
Je vous présente Amélie Dorandeux. Elle a une quarantaine d'années, elle est française et c'est l'héroïne de la super série politique de Canal+, Baron Noir.
Je n'ai pas peur d'être une républicaine. Je n'ai pas peur de vous.
Elle veut gagner toute seule. Il suffit de taper l'affaire barrage au FN pour que ça n'arrive pas.
Et oui, car Baron Noir ne se résume pas à la performance de Cadmerade en député du Nord socialiste. Il y a aussi l'incroyable Anna Mouglalis qui interprète ce personnage d'Amélie Dorandeux. Personnage qui a très souvent été comparé à Emmanuel Macron version féminine. Et pourtant, les créateurs de la série l'ont écrit bien avant son élection, à croire qu'ils avaient anticipé cette ascension au pouvoir d'un candidat outsider qui allait devenir la figure de cet extrême-centre dont on parle aujourd'hui. Car Amélie Dorandeux a beaucoup de points communs avec l'actuel président. Déjà, elle se fait élire suite au renoncement du personnage de Cadmerade. Ça rappelle forcément un certain François Hollande en 2016. Et puis, comme lui, elle est énarque, qu'elle n'a jamais été élue avant et elle accède au pouvoir à l'âge de 39 ans. Comme si ça ne suffisait pas. Elle décide de quitter le Parti Socialiste pour fonder son propre parti plus proche du centre et des Républicains, France Unie. Et comme le note le Nouvel Obs qui a fait un portrait croisé d'Amélie Dorandeux et d'Emmanuel Macron, à la fin de la saison 2, elle fait quelque chose d'assez inattendu qui fait écho à une situation récente que l'on a vécue en France.
Ce soir, je demanderai au Premier ministre Stéphane Torigny de me remettre la démission de son gouvernement.
Une dissolution de l'Assemblée nationale, ça vous rappelle forcément quelque chose. Anna Mouglalis dit avoir regardé des discours d'Emmanuel Macron pour nourrir son personnage aussi, qu'elle éprouve à la fois du respect et un grand manque de respect pour ses figures politiques. La quête du pouvoir me paraît abominable, mais la politique reste un rêve à faire vivre, dit-elle. Un rêve que son personnage ne va pas connaître très longtemps, car contrairement à Emmanuel Macron, elle va se sacrifier pour la République et les membres de son parti. Un choix qui paraît être assez éloigné de la la personnalité du chef de l'État qui est connu pour être au final assez seul contre tous.
Merci Manon Yoann Chapoutot. Je ne sais pas si vous avez vu Baron Noir, mais peut-être vous avez entendu parler de La Fièvre, cette série de Canal+, où on parle de la fameuse fenêtre d'Overton. C'était le thème de notre émission d'hier. C'est intéressant de voir comment des idées extrêmes un jour, finalement, entrent dans le débat public à coup de médias et de communicants.
J'ai vu les deux séries qui sont excellentes. Et d'ailleurs, les scénaristes ont régulièrement été consultés par des politiques au plus haut niveau du pouvoir pour leur prescience ou la manière dont ils percevaient les choses. De fait, la seconde série, La Fièvre, montre bien comment, effectivement, on opère une torsion en fait, de l'espace public en l'extrémisant, et en l'extrémisant généralement à droite, parce que ceux qui financent les médias...
Oui, en plus intérêt.
Oui, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Et j'ai toujours en tête cette citation du philosophe Alain. Voilà, petit souvenir de la Troisième République et de la cagne d'Henri IV, où Alain officiait, et Alain disait « la pente est à droite ». La pente est à droite parce que c'est vers là que va la facilité, l'abandon, etc. Et la pente de l'extrême centre est très clairement à droite et on le voit très bien.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il a encore un filet de bave au coin de la lèvre. Oh. Oui, en régie, même si son cardiologue lui déconseille formellement, il s'est encore offert un petit tour sur le compte Insta Hugo Clément Sport, qu'il préfère largement au compte Hugo Clément tout court. Car, je le cite, moi, les baleines, Paul Watson, l'environnement, je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est de le voir bien moulé dans son petit lycra, le Hugo. Pierre, exactement, mot pour mot, ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Pierre,
absolument.
Comme entre deux stories d'Hugo Clément, vous avez quand même écouté l'émission, vous nous la résumez en une minute chrono.
Et l'extrême centre aujourd'hui. J'ai pas compris l'émission en fait. Si, l'extrême centre aujourd'hui, c'est un concept politique beaucoup plus méconnu, paradoxal, que l'extrême droite ou que l'extrême gauche, mais qui a joué un rôle déterminant dans l'histoire. Notre invité, l'historien Yoann Chapoutot, nous a expliqué que l'extrême centre avait par exemple favorisé l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est en effet un parti politique libéral économiquement et autoritaire politiquement qui s'est allié à Hitler pour l'installer à la chancellerie dans les années 30. Le libéralisme autoritaire est né. C'est cynique et terriblement dangereux. C'est ce qui caractérise en tout cas l'extrême centre tel que nous l'a décrit notre invité. Un courant politique qui a structuré aussi notre vie démocratique en France depuis deux siècles jusqu'à l'arrivée du macronisme en 2017. Pour Yoann Chapoutot, qui on l'a compris, lui n'était pas totalement macroniste, les analogies historiques sont évidentes. Thématiques, mots utilisés, concepts et la loi immigration votée de concert par le centre et le RN. L'extrême centre, un oxymore qui pour lui s'appelle la droite.
Et oui, et maintenant, bravo Pierre pour ce résumé qui avait mal démarré mais qui s'est bien conclu.
J'étais perturbé par Hugo Clément Sport.
Ça, on vous comprend.
On en peut plus,
maintenant, parole à la contradiction quand même. On a pu analyser pendant une heure les dangers de l'extrême centrisme, mais pas sa beauté. Manuela Girueta, vous êtes venue nous en parler. Pouvez-vous d'abord vous présenter?
Mais bien sûr, bonjour, merci. Je suis Manuela Girueta, créatrice du mouvement Les Femmes au centre de la discussion, que l'on a failli appeler le féminisme au cœur du débat. Mais féminisme, ça fait peur. On pense aux féminazis et les nazis, c'est clivant. Voilà, mais bon. Après, c'est vendeur, hein, n'est-ce pas, monsieur Chapoutot, si bouquin sur le sujet. Faudrait peut-être penser à se renouveler un moment. Bon. En tout cas, on a choisi femme parce que c'est doux, maternel, les mamounes. Et j'ai préféré dire au centre qu'au cœur, car le centre, ce n'est pas l'émotion, c'est la raison. La discussion vaut toujours mieux que le débat, car dans débat, il y a battre, et moi j'aime caresser dans le sens du poil des couilles de mon interlocuteur jusqu'à son pubis. J'ai toujours été animée par le bon sens, l'envie de réunir et non pas de diviser. Diviser, c'est mal. Qui a envie de diviser l'addition après un restaurant? On divise? Non, Ludovic, tu payes. Merci, voilà. Et tu seras bien content que je caresse tes coucougnettes. Aujourd'hui, on est entouré par des radicaux qui veulent mettre de l'huile sur le feu. Et on le sait, c'est très dangereux. Ce qu'il faut, c'est un allume-feu pour que ça prenne. Tous les spécialistes du barbecue vous le diront. Après, est-ce qu'il faut piquer les merguez ou pas? J'aurais tendance à dire qu'en l'état, les études scientifiques ne nous permettent pas d'affirmer à 100% qu'il faille piquer les merguez. Donc, piquons avec modération. Et pour la cuisson, utilisons, je vous en prie, une huile neutre. Voilà, moi je revendique avec fierté mes origines suisses. Ah. Comme vous, je crois, monsieur Noël. Mes parents qui sont de Genève m'ont transmis ce goût du dedans, dehors, de la discrétion. Parfois, ce qui se passe devant soi ne nous regarde pas. Un enfant se fait arrêter par un policier. Qui suis-je pour juger le policier? Peut-être que l'enfant a fait un refus d'obtempérer. Arrêtons les clichés faciles. Moi, vous le savez, je ne suis ni noire ni blanche. Ah non, je ne suis pas blanche, non.
Non ?
Non, ah non, je suis grise comme votre belle barbe, monsieur Noël. Vous savez, le mouvement dont je suis la présidente incite à du « et avec monsieur et avec madame ». D'accord pour le droit à la contraception, on est moderne. Et en même temps, il est toujours possible pour monsieur de se retirer ou pour mesdames d'avaler dans la bouche. Elles seront contentes et ne tomberont pas enceintes. De vieilles techniques de bonne mamie mais qui ont la dent dure et permettent de renouer entre deux générations apparemment irréconciliables. Le droit à l'avortement, d'accord. Mais tout devrait être encadré par des hommes pour ne pas les mettre de côté. Il faut rassembler. La modération, c'est un mode de vie. Moi, par exemple, le midi, je peux manger à la fois de la viande rouge et des carottes. Viandarde et vegan. Je prends ensuite un fromage et un dessert. Et de tout en même temps, je mixe tout dans mon assiette et je le vomis tel quel aux toilettes. Parce que je suis gourmande et obsédée par mon poids. C'est une façon de vivre, le centrisme, jusque dans mon look. J'adore les vestes qui se portent dans les deux sens. Il faut savoir fluctuer. Nous tenons à travailler main dans la main avec le parti, quel qu'il soit, tant que c'est celui qui sera au pouvoir. Je suis prête à tous les ajustements. Comme je vous le disais, je suis pour l'écologie. J'adore les légumes. Bien sûr que c'est agréable de respirer l'air pur. Moi, dès que je sors du train à Dinard, je le remarque. Ça sent bon, ça sent meilleur ici qu'à Paris. J'ai une vraie sensibilité verte. J'adore les plantes. Je suis très sévère avec ma femme de ménage quand elle oublie de les arroser. Je lui dis « Bravo Daniela pour l'écocide !» Et là, oui, je tombe dans l'extrême. Mais nous sommes prêtes à cette alternative si un jour, un extrême propose des solutions. Pour finir, je citerai mon icône féministe préférée à moi, Winston Churchill. Il n'y a aucun mal à changer d'avis, pourvu que ce soit dans le bon sens.
C'est un bon résumé. Merci pour toute cette sagesse, Manuela, et surtout merci Rosa Burstein. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et sur scène dans votre nouveau spectacle Dédoublé au Théâtre de l'Œuvre tout le mois de mars, ainsi qu'en tournée à Bordeaux ce mercredi. Et une autre actu, vous serez à l'affiche de la série Arte Au fond du trou en sélection à Sérimania. Et Sérimania, évidemment, Zoom Zoom Zoom, il sera même pour l'ouverture, si j'ai bien compris, le 21 mars en direct. Si de je viens de recevoir mes billets de train et on sera logé. Je crois qu'on sera bien logé. Merci, Johan Chapoutot. Je rappelle votre livre qui nous a donné envie de faire cette émission sur l'extrême centre, Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir. C'est disponible chez Gallimard et la réponse est dedans. Zoom Zoom Zen.